Mais d'abord, je vous pose cette question. Dans quel état d'esprit êtes-vous d'habitude quand vous venez au culte? Dans quel état d'esprit êtes-vous d'habitude quand vous venez au culte? Est-ce que vous êtes hyper enthousiaste? Vous levez le dimanche matin et c'est yes, c'est dimanche! On va aller au culte, on va chanter, on va prier, on va étudier la Bible, on va boire le verre de l'amitié, peut-être qu'il y aura des petits gâteaux, des petites pizzas, des chips, etc. Ou bien, typiquement, est-ce que vous venez au culte un peu à reculons? Un peu à reculons, en hésitant, parce que franchement, vous avez quand même pas mal d'autres choses à faire le dimanche après-midi. Et dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous discutez de la foi avec quelqu'un? Avec un collègue, un ami, un membre de la famille? Est-ce que vous vous mettez immédiatement à parler de tous les bienfaits que Jésus, votre meilleur ami, entre guillemets, vous procure, la joie, la paix intérieure, le sentiment d'être aimé, etc., etc. Ou bien, est-ce que vous êtes plutôt mal à l'aise à parler d'un sujet un peu tabou, avec des gens qui ensuite pourraient vous regarder d'un œil un peu condescendant? Et si vous n'êtes pas chrétien cet après-midi, alors quel état d'esprit associez-vous aujourd'hui à la pratique du christianisme, à vos yeux, à votre avis? Quel état d'esprit associez-vous à la pratique du christianisme, au christianisme tout simplement? Vous avez sans doute autour de vous des exemples de chrétiens que vous connaissez, des chrétiens tantôt exubérants et puis tantôt excessivement discrets. Et vous vous posez peut-être des questions par rapport à la foi chrétienne, si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui. Alors, dans quel état d'esprit convient-il de suivre Jésus, à votre avis? Si vous deviez suivre Jésus, dans quel état d'esprit faudrait-il le faire? Vous voyez, cette question s'adresse à tout le monde, chrétien ou non chrétien. Et c'est la question, en fait, qui est soulevée dans le texte qu'on va lire dans un instant. Et vous allez voir que ce texte, en fait, veut corriger en nous aussi bien l'exubérance que la nonchalance. Corriger en nous aussi bien l'exubérance que la nonchalance, aussi bien la précipitation que l'hésitation, aussi bien la témérité que la timidité. Ce texte veut remplacer tout cela en fait par une troisième voie. La crainte. La crainte. Autrement dit, ce sera la leçon de ce texte qu'on va lire. Peut-être une leçon qui va vous surprendre, peut-être une leçon qui va vous choquer, je ne sais pas. Mais rassurez-vous, on va regarder tout ça dans le détail juste après, à partir du texte. Mais la leçon de ce texte, je pense, c'est la suivante. On ne suit pas Jésus à la légère, mais en tremblant. On ne suit pas Jésus à la légère, mais en tremblant. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas, principalement en tout cas, de trembler de peur. Il s'agit de trembler de respect. Trembler de respect, en quelque sorte, devant la grandeur de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors lisons le texte, c'est le chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu, versets 18 à 34, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre. Et cette prédication s'inscrit dans la continuité des messages que nous faisons sur ce livre de la Bible, et dont vous pouvez trouver les enregistrements sur le site internet de l'Église si vous n'étiez pas là lorsque j'ai prêché sur ces textes. Alors, lisons Matthieu chapitre 8, versets 18 à 34. Je vous rappelle qu'il s'agit de la parole de Dieu que nous lisons ici. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Et ils lui crièrent, « Que veux-tu de nous, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux !» Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville pour tout raconter, spécialement ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Voici pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière avant de continuer. Notre Dieu, merci pour ces textes que tu nous as livrés, que tu as inspirés et qui sont utiles pour notre édification, qui nous permettent de te connaître et de mieux te connaître. Seigneur, encore ce soir, bénis la prédication de ta parole, s'il te plaît, et rends-la fructueuse dans notre vie à chacun, afin que nous recevions de ta part ce que tu veux nous dire, que nous le retenions et que nous le mettions en pratique. Amen. Alors pour le contexte, souvenons-nous qu'après trois chapitres consacrés au fameux sermon sur la montagne, dans cet évangile, chapitres 5, 6 et 7, l'auteur est en train de nous rapporter maintenant une série de miracles que Jésus accomplit, des miracles divers, on avait noté cette diversité la semaine dernière, divers, et ceux que l'auteur est les miracles que l'auteur nous raconte, il les choisit parce qu'ils sont particulièrement emblématiques, ces miracles. On a vu la semaine dernière, déjà à travers trois miracles particuliers, que l'auteur voulait nous convaincre que Jésus, d'abord, était un prophète hors norme, qu'il n'y avait personne dans sa catégorie, non seulement cela, mais en plus qu'il était investi d'une autorité spéciale, l'autorité de Dieu lui-même. Et enfin, qu'il était venu se charger, ni plus ni moins, que de la condition déchue de l'homme. D'accord ? Tout cela conformément aux promesses millénaires de l'Ancien Testament qui concernaient la venue d'une personne que l'Ancien Testament appelle parfois le Messie, qui devait venir délivrer son peuple de ses péchés et rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Bon. Alors à ce stade du récit, on comprend que Jésus est donc bien plus qu'un prophète. Il ne mérite pas seulement notre admiration, mais il mérite notre foi, une foi pleine et entière. Quoi de plus logique donc que maintenant, Matthieu nous rapporte les réactions de deux personnes qui décident de suivre Jésus. Réponse logique. Il est bien plus qu'un prophète. Il mérite plus que notre admiration. Il mérite notre foi. Logique. Maintenant, voyez ces deux exemples. Deux personnes qui décident de le suivre. Deux réactions différentes. Mais Jésus va corriger ces deux réactions. En effet, la première chose que le texte veut nous faire comprendre ici, versets 18 à 22, dans un premier temps, c'est que pour suivre Jésus, il ne convient d'être ni intrépide, ni indécis. Pour suivre Jésus, il ne convient d'être ni intrépide, ni indécis. La première personne à réagir dans le texte, c'est un scribe, un théologien juif de cette époque, si vous voulez, qui s'engage de manière très imprudente, sûrement de manière irréfléchie, s'engage à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, à savoir suivre Jésus partout. Verset 19, « Je te suivrai partout où tu iras. » Il s'est précipité de manière certainement irréfléchie. Et juste après, verset 20, Jésus va calmer ses ardeurs. Il le corrige en fait, en lui signalant que la vocation chrétienne est parsemée de difficultés. Même celui qu'il veut suivre, à savoir le Fils de l'homme, le Messie, même lui, n'a nulle part où poser sa tête. Donc Jésus calme ses ardeurs, le reprend en quelque sorte, le corrige. Ensuite, juste après, c'est un disciple qui réagit en disant en substance qu'il veut bien suivre Jésus, mais qu'il a quelque chose de plus important à faire d'abord. Il veut ensevelir son père, ce qui veut probablement dire dans le texte qu'il veut attendre jusqu'à la mort de son père avant de s'engager avec Jésus. Réaction donc diamétralement opposée à celle du scribe, vous comprenez ? Pas de précipitation chez ce disciple, il a bien réfléchi avant, vous voyez ? Mais Jésus le corrige aussi, en lui disant en gros que ceux qui ne le suivent pas sont comme morts. Il lui dit ça, si tu ne me suis pas, tu fais partie de ceux qui sont morts et qui vont enterrer leurs morts. Tu n'es pas un vrai vivant si tu ne me suis pas. Une façon efficace de faire comprendre à ce disciple qu'il n'y a rien de plus important pour un homme que de suivre Jésus. Donc Jésus corrige ces deux réactions, qui sont pourtant très différentes l'une de l'autre, voire même opposées l'une à l'autre. Mais les deux, Jésus les corrige. Et en effet, on peut bien imaginer, non, que dans certaines situations, ni la précipitation, ni l'hésitation, ni la témérité, ni la nonchalance ne sont des réactions appropriées. Imaginez par exemple que vous ayez vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et que vous vous soyez réfugié en Angleterre au moment où la France a été envahie par les Allemands. Et quelques temps plus tard, vous entendez à la radio un appel solennel à s'engager dans l'armée pour participer au débarquement, à la libération de l'Europe. Est-ce que vous allez vous précipiter pour faire la guerre, la fleur au fusil, comme on dit, de façon intrépide, en pensant que vous allez tout balayer sur votre passage? Mais oui, la victoire est déjà acquise, j'y vais. Non, ce serait un peu déplacé, n'est-ce pas? Mais à l'inverse, est-ce que vous allez hésiter, tergiverser, comme s'il y avait des choses plus importantes à faire d'abord? Non, ça aussi, ça serait un peu déplacé. Vous voyez ce que je veux dire? La gravité de la situation vous interdit à la fois d'être intrépide et d'être indécis. Et donc, dans ce texte aussi, Jésus interdit à ceux qui veulent le suivre d'être intrépide ou indécis. Aucune de ces deux réactions, aucun de ces deux états d'esprit ne convient au christianisme. À la foi chrétienne. Mais malheureusement, ce sont des attitudes qui nous caractérisent parfois, n'est-ce pas ? L'une ou l'autre nous caractérise parfois. Je me pose la question, par exemple, du contenu textuel de certains chants de louanges chrétiens, particulièrement des chants récents, où dans ces chants, on s'engage avec enthousiasme à faire plein de choses pour Dieu. Et des fois, je me dis, mais y compris, je l'avoue, sans doute des chants qui sont chantés ici, hein, mais parfois je me dis, mais c'est un peu téméraire quand même de dire ces choses-là à Dieu. Je vais te louer, je vais chanter pour toi, je te servirai, je t'obéirai, je t'aimerai, je t'écouterai, j'aimerai mon prochain, je persévérerai, je vais changer le monde pour toi, Seigneur, je vais résister au diable, je te suivrai partout où tu iras. Est-ce que ces paroles reflètent notre piété, peut-être, notre état d'esprit en ce qui concerne la foi en Jésus? Est-ce qu'on est téméraire comme ça, parfois? Je pense que Jésus nous dit ici dans ce texte que c'est un peu déplacé. C'est un peu déplacé, ce genre de témérité devant le Seigneur Jésus. Et à l'inverse, peut-être même que c'est plutôt ce second cas de figure qui nous ressemble le plus. À l'inverse, nous avons souvent du mal à considérer qu'il n'y a vraiment rien de plus important pour un homme que suivre Jésus. Nous remplaçons facilement le culte, la lecture de la Bible, la prière, le témoignage, la communion fraternelle. Toutes ces choses, nous les remplaçons facilement par d'autres choses, n'est-ce pas? Par le sport, les loisirs, la télé, les amis, voire même le travail. Je veux bien suivre Jésus, mais j'hésite. Ah, j'hésite. Il y a d'autres choses qui me plaisent, d'autres choses qui me paraissent importantes dans la vie. On ne peut pas juste faire un chouette mélange de toutes ces choses qui sont chouettes, qui sont bien. Et comme on l'a vu dans ce texte, en tout cas dans un premier temps, pour suivre Jésus, il ne convient d'être ni intrépide, ni indécis. Alors la question se pose, dans quel état d'esprit convient-il de suivre Jésus? La suite du texte nous met sur la voie, je pense. Après avoir, dans un premier temps, corrigé deux réactions différentes, Jésus va maintenant susciter deux réactions différentes, et il va le faire par le moyen de deux miracles particuliers. Versets 23 à 34. Et à travers ces versets, ce que le texte veut nous faire comprendre dans un deuxième temps, c'est que la personne et l'œuvre de Jésus devraient inspirer en nous un respect suprême. La personne et l'œuvre de Jésus devraient inspirer en nous un respect suprême. C'est-à-dire qu'on devrait respecter Jésus d'un respect supérieur au respect que nous pouvons porter à l'égard de quoi que ce soit d'autre. Un respect suprême. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on a ici une section du texte, chapitres 8 et 9, on verra ça la prochaine fois, une section du texte qui nous rapporte des miracles. Et au milieu de ces miracles, il y a un truc qui se passe, c'est pas un miracle, c'est quand il y a ce scribe et ce disciple qui veulent suivre Jésus. Et à travers ce petit épisode, cette anecdote, j'ai envie de dire, mais en fait c'est bien plus qu'une anecdote, parce qu'elle soulève, ces quelques versets soulèvent une véritable problématique, une véritable question qui est la suivante. Dans quel état d'esprit convient-il de suivre Jésus, puisque ni témérité, ni timidité. Alors dans quel état d'esprit convient-il de suivre Jésus? Et je crois qu'à la suite de cette problématique qui est soulevée, alors, à partir du verset 23, les deux miracles qui nous sont rapportés juste après constituent en fait la réponse à cette question. Encore une fois, on a là des miracles très différents l'un de l'autre, très différents de ceux qui ont précédé, même dans le chapitre, on ne l'a pas lu, mais on en parlait la semaine dernière. Très différents, inédits dans le texte, et aussi emblématiques. Ils ont des choses à nous enseigner, ces miracles. Dans le premier miracle, à partir du verset 23 à 27, Jésus, nous le découvrons, qui commande la nature. Jésus commande la nature. Il y a une tempête, Jésus parle, il gronde le vent et la mer, et hop, il s'arrête tout de suite à la voix de Jésus. C'est le calme plat. Miracle, en fait, encore plus exceptionnel que les guérisons qui ont précédé, vous vous souvenez, la guérison du lépreux, la guérison du serviteur du centenier, la guérison de la belle-mère de Pierre. Et déjà, on avait vu, mais c'est extraordinaire, Jésus est un prophète hors norme. Attends, vous n'avez encore rien vu. Juste après, il calme la tempête. Et c'est si incroyable que les disciples, qui pourtant étaient pas loin quand il a fait ses autres miracles, là, ils sont ébahis. Mais quel est celui-ci, disent-ils, n'est-ce pas? Au verset 27. Quel est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Les disciples sont pleins d'admiration, nous dit le texte. C'est-à-dire qu'ils sont profondément impressionnés, voire même bouleversés. Ils ne savent plus quoi penser. On peut les imaginer, ces disciples, dans la barque, bouche bée, se tenir un peu à distance de Jésus, vous voyez, n'osant ni l'approcher, ni lui parler. D'ailleurs, ma traduction dit qu'ils se disent « Quel est celui-ci ?» Alors, on ne sait pas s'ils l'ont dit à voix haute ou c'était seulement en pensée, mais ils s'interrogent. Ils sont ébahis, bouche bée, le souffle coupé, impressionnés par Jésus. Quelle autorité, quel déploiement de puissance pour calmer d'un mot une tempête si violente, n'est-ce pas? Et ensuite, ça c'est la réaction des disciples. Et ensuite, une autre réaction nous est rapportée à la suite du second miracle. Le miracle qui suit quand Jésus calme la tempête. Donc après, il y a un second miracle. Cette fois, les habitants de la région où Jésus humilie des démons redoutables supplient Jésus de partir le plus loin possible. Alors ce qui se passe, c'est que quand on arrive à la fin au verset 27, on voit que Jésus il a calmé la tempête, on se dit ça c'est incroyable. Mais juste après, il va faire encore mieux. C'est une escalade, en fait, dans ce qui est impressionnant, quoi. Une escalade dans le déploiement de puissance. Parce que dans le second miracle, Jésus ne commande pas la nature, mais il commande des démons. C'est-à-dire qu'il commande non seulement les forces de la nature qui sont impersonnelles, mais il commande aussi les forces du mal qui sont personnelles et qui sont en plus résolument hostiles à sa personne. Verset 28, Jésus triomphe de ces forces qui sont redoutables, nous dit le texte. Et ensuite, verset 30 à 32, il va même humilier ces démons en les envoyant dans un troupeau de pourceaux. Pour un juif, un porc, c'est un animal plutôt méprisable. Donc ils vont se précipiter, ces démons, dans ce troupeau, et le troupeau à son tour va se précipiter dans la mer, et il meurt noyé. Et tout cela en plus dans un territoire réputé impur, puisque le texte nous donne des précisions géographiques. Jésus a traversé la mer, il est dans le territoire des Gadaréniens, c'est-à-dire qu'il est dans un territoire qui n'est pas occupé par des juifs, par des croyants, mais il est occupé par des païens, des non-juifs, des gens impurs. Quand on lit ces histoires, il nous est facile de sous-estimer la signification en fait de ces deux miracles. Et je le mentionnais brièvement il y a quelques instants, mais l'auteur souligne les réactions des gens qui ont été témoins de ces choses pour nous aider à notre tour à tirer les bonnes conclusions de ce qui se passe dans le texte. J'ai mentionné le fait que les disciples étaient pleins d'admiration, impressionnés, bouleversés, ne savent pas quoi penser. Et j'ai mentionné les habitants de cette terre, les Gadaréniens de ce territoire, qui supplient Jésus de partir le plus loin possible. Jésus ici donc suscite deux réactions différentes. On pourrait dire en quelque sorte la louange mais qui se passe de parole, la louange de la part des disciples, mais aussi la terreur de la part des Gadaréniens. Mais ces deux choses, dans ces deux histoires de miracles, procèdent d'une crainte, devant le déploiement de puissance dont Jésus a fait preuve. Chez les disciples, cela a suscité la louange, chez les Gadaréniens, la terreur, et on va revenir sur ce point dans un instant. Mais ça me fait un peu penser à ces nombreux films qui existent et qui raconte la venue ou l'apparition d'extraterrestres sur la Terre. Vous avez sûrement vu un film comme ça, où la Terre se fait envahir d'extraterrestres. Alors d'habitude, une des premières choses qu'on découvre au sujet de ces extraterrestres, dans le scénario du film, une des premières choses qu'on découvre, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus puissants que les hommes. Ça, c'est un élément très important de l'histoire, de savoir que ces extraterrestres sont beaucoup, beaucoup plus puissants que les hommes. Leur intelligence est supérieure, leur force physique est supérieure, leur technologie est supérieure. Bref, les hommes ne font pas le poids. Alors, si les hommes étaient plus forts, il n'y aurait pas de film, ce serait pas intéressant. Donc, ils font pas le poids. Et là, suspense, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et très vite, en fait, dans ce type de film, le réalisateur va inspirer aux spectateurs que nous sommes ce sentiment à la fois d'admiration devant une telle supériorité dans tous les domaines, mais en même temps de la peur, un genre de respect suprême, n'est-ce pas, pour ces extraterrestres, avec une question qui est intimement liée à ce sentiment, et une question tout à fait déterminante pour la suite du film, une question qui nourrit le suspense, qui nourrit le scénario. La question, c'est la suivante. Ces extraterrestres, est-ce qu'ils viennent en amis ou en ennemi? Et tout le reste du film dépend de la réponse à cette question. Hein. Cette puissance exceptionnelle qu'ils sont capables de déployer, sera-t-elle déployée en notre faveur ou en notre défaveur? Suspense. Alors on attend la suite du film pour le savoir, n'est-ce pas? C'est la même question ici que le texte nous oblige à nous poser à notre tour, à ce stade du récit, en ce qui concerne Jésus. Le texte nous fait comprendre que la personne et l'œuvre de Jésus doivent inspirer en nous un respect suprême, n'est-ce pas? Je l'ai dit, en raison de sa suprématie sur la nature, en raison de sa suprématie même sur les forces du mal. Mais cette puissance si incroyable de Jésus sera-t-elle déployée en notre faveur ou en notre défaveur? Elle a été déployée en faveur des disciples dans la barque, n'est-ce pas? Et donc, sans doute les disciples, même s'ils sont bouleversés en voyant ce que Jésus vient de faire, sans doute les disciples se sentent-ils en sécurité auprès de Jésus, avec Jésus dans leur bateau. Mais les Gadaréniens, de l'autre côté de la mer, ils n'ont aucune raison de se sentir en sécurité. Et la puissance de Jésus leur fait plutôt peur à eux, n'est-ce pas? Ils le supplient. Ils supplient Jésus de quitter et de s'éloigner de leur territoire. Finalement, la réaction des Gadaréniens, honnêtement, est plus appropriée que la réaction du scribe au début de l'histoire et que la réaction du disciple au début de l'histoire. Parce que les Gadaréniens, eux, ils n'imagineraient jamais faire preuve de témérité devant Jésus. Et ils ne tergiversent pas non plus un seul instant pour se décider par rapport à ce qu'ils vont faire. Toute la ville, nous dit le texte, sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, il n'y a pas le temps de réfléchir, hein, ils le supplient de partir. Ils sont profondément impressionnés par Jésus et ils veulent par conséquent qu'il s'en aille. Tu nous fais trop peur. Mais vous savez, si nous non plus, nous ne savions pas si Jésus nous était propice ou pas, si nous non plus ce soir, nous ne savions pas si Jésus nous était propice ou pas, la réaction des Gadaréniens serait exactement la nôtre, n'est-ce pas? Nous demanderions à Jésus exactement ce que les Gadaréniens lui ont demandé. Devant un tel déploiement de puissance, il n'y a rien de plus logique en fait. Quand on a quelqu'un de si puissant devant soi et qu'on ne sait pas s'il nous est propice ou pas, je t'en supplie, éloigne-toi de moi. C'est trop risqué. Non seulement nous non plus, nous ne nous précipiterions pas pour suivre Jésus, mais en plus, nous non plus, nous n'hésiterions pas à nous enfuir le plus loin possible de lui. Celui qui commande la nature, celui qui humilie les forces du mal qui lui sont hostiles. Imaginez ce que lui peut nous faire, à nous, des créatures déchues, imparfaites, rebelles et coupables à ses yeux. Mais voici ce que dit l'Écriture sainte concernant la venue de Jésus, il y a 2000 ans. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Donc Jésus est venu. Donc Jésus a prêché en annonçant la venue du royaume de Dieu. Il a réalisé des miracles exceptionnels pour attester la véracité de ce qu'il disait et pour nous montrer, comme on l'a vu aujourd'hui, que pour le suivre, il ne convient d'être ni intrépide ni indécis et que nous devrions avoir pour lui un respect suprême à l'image des disciples dans la barque, à l'image des Gadaréniens de l'autre côté de la mer, respect suprême. Mais cette puissance exceptionnelle, cette puissance terrifiante à certains égards, Jésus, un peu plus tard dans l'histoire, cette puissance, il l'a déposée sur le côté, il l'a mise de côté un instant, au moment où il s'est substitué à nous, en mourant comme un bandit sur la croix où il a été crucifié. Et où il est mort à la place des coupables que nous sommes, à la place des bandits que nous sommes, et cela pour détourner sur lui-même le châtiment que nous méritions. Mais le troisième jour, cette puissance extraordinaire, exceptionnelle, a été déployée une fois de plus. Et encore une fois, elle a été déployée de manière inédite, et encore une fois de manière emblématique, par sa résurrection triomphale, n'est-ce pas, d'entre les morts. Jésus est ressuscité en vainqueur de toute force hostile à Dieu. Il a ainsi scellé la défaite du diable et des démons. Il a ainsi dépouillé le péché de sa puissance. Il a réduit à néant l'aiguillon de la mort, comme dit Paul dans une épître. Et toute cette puissance qui coupe le souffle aux disciples dans la barque, toute cette puissance qui terrifie les Gadaréniens dans cette histoire, eh bien vous savez, cette puissance qui a aussi ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, cette puissance est déployée en faveur de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et donc je peux vous le certifier, c'est pas parce que j'ai raison, c'est parce que la Bible a raison, je peux vous le certifier, si vous aimez Jésus, il vous est propice. Celui qui a calmé la tempête, celui qui a humilié les démons, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Si vous l'aimez, il vous est propice. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut s'approcher de lui avec témérité, de façon irréfléchie, la fleur au fusil, comme on dit? À l'inverse, convient-il d'hésiter, de tergiverser, de peser le pour et le contre, de remettre la décision à plus tard, qu'une fois que les choses auront évolué, peut-être un petit peu, on en saura un peu plus, etc. Non. Ce texte nous met devant cette troisième voie que je mentionnais en introduction. La voie de la crainte devant Jésus, la crainte reconnaissante, la crainte respectueuse, en raison de ce que Jésus a accompli sur la croix et au tombeau, et qui nous montre qu'il nous est propice. On ne suit pas Jésus à la légère donc, mais en tremblant. Il ne s'agit pas de trembler de peur, mais de trembler de respect devant la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce respect doit se voir dans notre culte, j'espère. Il doit se voir dans nos chants, il doit se voir dans notre attitude de chrétien. Il doit se voir dans la façon dont nous parlons à Jésus et dans la façon dont nous parlons de Jésus. Ce respect doit se voir dans la place que Jésus occupe dans notre vie si nous sommes croyants, c'est-à-dire dans nos priorités, dans notre vie de famille, dans la façon dont nous passons notre temps, dans la façon même dont nous dépensons notre argent, etc., etc. Et en fait, que vous soyez chrétien ou non, voilà l'état d'esprit dans lequel il convient de suivre Jésus. Amen. Prions. Notre Dieu, pardonne-nous s'il te plaît, car nous sommes bien souvent soit comme le scribe, un peu téméraire, impétueux, et parfois comme le disciple, nous hésitons, nous avançons à reculons, nous invoquons des prétextes. Oui, pardonne-nous Seigneur, aide-nous chaque matin Seigneur à nous souvenir de la puissance que tu as déployée, non seulement sur la terre, pendant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, mais en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite, Père. Aide-nous à nous souvenir de cette puissance incroyable qui est déployée en faveur de ceux qui te font confiance. Seigneur, que cela transforme efficacement et visiblement notre vie et notre culte. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.